Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, Virginie.
Le cheval.
Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors avec aujourd'hui, tout le monde a reconnu sa voix, Virginie Bauer.
Bonjour Michel.
Spécialiste reconnu des chevaux en général et des chevaux arabes en particulier, que tu préfères nommer, Virginie, des chevaux orientaux ou les chevaux orientaux. Une préférence qui ne sort pas comme ça de rien, mais qui repose sur de solides arguments.
Oui, parce que l'origine du cheval arabe n'est pas circonscrite à la péninsule arabique, d'où le fait qu'il faut voir ça de plus loin et l'appellation chevaux orientaux qui est de plus en plus adoptée.
Qui est de plus en plus adopté, absolument. Donc, le terme cheval arabe tombe un petit peu en désuétude, enfin, si je puis dire.
Oh, il reste cheval arabe pour la plupart des gens, mais
pour les spécialistes,
on parle plus de cheval oriental.
D'accord. Alors, on va commencer cette émission en prenant le cheval au mot, et aujourd'hui, c'est le mot postillon. Ah! Il semblerait que ce mot vienne de l'italien, il semblerait, et désigne vers la fin du XVIe siècle le valet de poste. Bon, poste postillon, hein. Donc, qui est ce cavalier monté en général sur le cheval de tête d'un attelage. Par la suite, comme l'indique dans sa correspondance la marquise de Sévigné, le postillon est plus spécifiquement le cavalier chargé de porter des lettres aux particuliers. Donc, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, postal. Alors, au cours du temps, postillon élargit son champ sémantique. Et à la fin du XVIIe siècle, il désignera le voilier spécialisé dans le transport des lettres et des colis. On donnera également ce nom au navire de découverte, donc ça n'a plus grand-chose à voir avec les lettres, ou encore à ceux chargés de transmettre des informations et des nouvelles aux populations françaises établies dans le vaste monde. C'est le postillon qui porte des nouvelles de la petite famille. Alors le mot sera, quelques décennies plus tard, adopté dans le langage argotique pour nommer la boulette de pain que les détenus se faisaient passer d'une cellule à l'autre et dans laquelle étaient cachés des messages importants. Du style, le gardien est malade, on a peut-être une chance en défonçant notre porte et en filant par la fenêtre. Alors, pour les pêcheurs à la ligne, on voit que le sujet est vaste. Le postillon désigne le flotteur fixé sur le fil d'une canne à pêche et pour les adeptes du cerf-volant, le dispositif au travers lequel passe la ficelle permettant de diriger l'engin. Alors là, on est encore beaucoup plus loin des messages et des lettres. Et c'est également ce mot que les modistes donnaient au ruban fixé à l'arrière des chapeaux des jeunes filles, ou encore à la fin du XIXe siècle, la garniture cousue au bas d'un jupon. Voilà, j'ai mon postillon qui s'est décousu. Et j'étais bien embêté. Il y avait balle, vraiment bien embêté. Alors, à cette époque, et aujourd'hui encore, le postillon désigne le petit, comment dirais-je, crachotis que certaines personnes émettent quand elles parlent. Et ce dernier sens est finalement dans la logique du sens premier du mot. Comme le cavalier postillon d'antan se déplaçait devant la voiture à laquelle ses chevaux étaient attelés, eh bien, comment dirait-on, le postillon de salive précède parfois les mots que nous prononçons et permettez-moi de vous avouer que le messager du cheval en est un redoutable spécialiste. Alors, Virginie, spécialiste reconnue, je l'ai dit, des chevaux orientaux, je crois que au haras de Rodez, il y a le squelette d'un cheval oriental, appelé encore cheval arabe, mais tu préfères oriental, et qui serait un cheval de Napoléon du nom de Tamerlan.
Oui, Tamerlan est un cheval célèbre qui a entre autres été immortalisé par un très beau tableau de Géricault et qui, comme nombre d'étalons que détenait Napoléon, a été envoyé au haras de Rodez pour faire la monte, puisque Napoléon avait recréé les haras et qu'il avait l'idée que le cheval arabe était un merveilleux reproducteur qui apportait vitesse, vélocité, souplesse aux cavaliers et cela ne pouvait qu'améliorer les races françaises. Donc, quand Napoléon cessait de monter ses chevaux, il envoyait ses étalons aux divers haras en France. Et nous avons eu donc Tamerlan à Rodez, où il a fait une saison de monte et ensuite, il est reparti et par un concours extraordinaire, donc ce squelette se trouve à Rodez. Il y a d'autres chevaux de Napoléon qui existent encore dans le monde. Le plus célèbre est certainement Vizir, dont la dépouille naturalisée se trouve aux Invalides à Paris. Et puis...
Que tout le monde peut voir, du
que
reste.
Que tout le monde peut voir. Et un peu plus loin de nous, il existe aussi le squelette de Marengo, qui est un autre des chevaux célèbres de Napoléon, qui a été capturé par les Anglais, une espèce de victoire sur celui qu'ils dénommaient l'ogre.
Un véritable trophée.
Véritable trophée de guerre, puisqu'ils sont même allés jusqu'à transformer ses sabots en cendriers pour les offrir à des généraux.
Ah, d'accord. Donc, c'est une façon comme une autre de rester dans la mémoire des gens. C'est très bien. Bon, un beau cheval oriental, bon, dont les sabots sont copiés pour faire des cendriers. Mais bon. Voilà, effectivement, peut-être que Marengo, à part les spécialistes, serait complètement tombé dans l'oubli.
Oh, certainement, mais en même temps, Marengo, c'est un des chevaux emblématiques de ce qu'on appelait les chevaux blancs, qui sont faits gris, de Napoléon, car quand on regarde tous les tableaux qui ont été consacrés aux victoires de Napoléon, on voit qu'il est toujours, la plupart du temps, monté sur un étalon gris, blanc.
Oui, c'est ça, voilà. Alors, c'est vrai que dans le langage hippologique, on ne dit pas un cheval blanc, ça ne se dit pas, on dit un cheval gris. Bon, c'est le terme consacré. Comme on ne dit pas un cheval noir, mais un cheval zin, à l'inverse. Voilà. Alors, Virginie, tu sais bien sûr que les crinières sont au vent de l'été au haras national de Rodez, donc, que je rappelle, qui est rue Eugène Loup, donc derrière, enfin à côté du stade Polignon, derrière la salle des fêtes. Et en effet, cet été, pas moins de 4 événements sont proposés à celles et ceux que la simple vue d'un cheval font frémir de joie. Mais je crois que tous ceux qui ont une attache affective avec le cheval, à mon avis, viendront. Alors d'abord, le haras a eu l'excellente idée, son directeur Henri Albert a eu l'excellente idée de faire une exposition qu'il a intitulée « L'histoire extraordinaire de la Poste ». Donc ça nous renvoie un petit peu à Postillon, qui a débuté cette émission, et qui nous fera découvrir, entre autres, les différents équipements que les postillons utilisaient pour mener à bien leur mission. En particulier, ces massives bottes en bois qui empêchaient le cavalier de recevoir le timon sur sa jambe, enfin ou plus exactement quand il le recevait, bah, ça lui cassait pas la jambe, donc ça le protégeait, une sorte d'armure en bois qui montait jusqu'au genou et gainée de cuir. Et alors je signale que c'est gratuit et c'est tous les jours de la semaine de 10h à midi à l'exception des week-ends et des jours fériés. Voilà. Alors d'autre part, toujours au haras de Rodez, il y a les chevauchées amoureuses. C'est joli, les chevauchées amoureuses. Et ce sont en fait les artistes en résidence au haras qui organisent les traditionnels cabarets équestres les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 août prochains à 21h30. Alors bon, pour cela, il suffit d'appeler le haras qui pourra vous donner le calendrier précis si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Et puis évidemment, pour moi, ça me touche beaucoup, le théâtre et cirque équestre avec Mademoiselle Julie les 29, 30 et 31 juillet à 21h, puis les 7, 8, 9 août toujours à 21h. Enfin, le dernier est programmé le dimanche 10 août à cette fois-ci 15h, milieu de l'après-midi. Et donc les inscriptions et les renseignements sont au 06 79 59 28 47. Alors là, je vous le répète parce que c'est la compagnie d'Archane qui l'organise, donc dans l'enceinte des haras de Rodez, mais c'est pas le même numéro. Donc c'est le 06 79 59 28 47 ou encore celui de votre serviteur, le 06 44 36 84 74. Je vous le répète, le 06 44 36 84 74. Et enfin, comme tu le dis si bien, Virginie, last but not least, l'arrivée de la route randonnée découverte et les chevaliers de Père-Brune le samedi 2 août. Vous voyez, c'est un programme extraordinaire, ça ne s'arrête jamais. C'est un été vraiment où le cheval est roi à Rodez. Donc, je le répète, le samedi 2 août, suivi pour ceux qui le souhaitent d'un repas et d'un spectacle assuré par le cavalier cascadeur Marc de Valois. Alors juste, vente des billets pour le repas et ou le spectacle, chacun choisit, le mercredi 23 juillet de 11h à 19h30, donc le mercredi 23 juillet de 11h à 19h30 au haras et à l'espace culturel Leclerc. Alors Virginie, Marc de Valois, peux-tu nous le présenter ?
Alors Marc de Valois est un cavalier cascadeur qui a beaucoup travaillé notamment avec Mario Luracci. Il a travaillé sur La Reine Margot, Le Masque de Fer, Astérix et Obélix. Il a été la doublure d'Olivier Martinez dans Le Hussard sur le Toit.
Très très beau film.
Très beau film. Il a été également, il a travaillé au Musée vivant du cheval à Chantilly, où il a dressé des chevaux. Et ensuite, il a créé lui aussi des numéros uniques qui portent sa marque, dont notamment la poste hongroise en feu, avec un cavalier en feu, debout sur deux chevaux en feu.
Donc, chevaux en feu?
Des chevaux en feu.
Il a allumé des chevaux?
Bah, apparemment. Moi, je n'ai jamais vu le spectacle avec cette poste hongroise en feu, mais on peut voir ça sur les photos, entre autres, sur le site de Marc de Valois. C'est une de ses marques de fabrique. Et d'ailleurs, il travaille beaucoup au niveau de la cascade et de la voltige en utilisant des effets pyrotechniques, ce que vous pourrez voir à Rodez, tout à fait à la fin du spectacle, puisqu'il franchira un mur de feu avec ses cavaliers.
Avec ses cavaliers. Alors, on va quand même rassurer les personnes qui nous écoutent. Bon, un cheval qui brûle, effectivement, mais c'est ce qu'on appelle un feu froid.
Oui.
Voilà.
Et toutes les précautions sont faites. Le cheval est protégé, comme tout cascadeur. Et il faut savoir que ceux qui se brûlent le moins sont certainement les cascadeurs au cinéma, parce qu'ils sont tout à fait conscients du danger, contrairement
aux amateurs.
D'accord,
tout à fait. Nous allons peut-être nous accorder maintenant une pause musicale avec Carmina Burana de Karl Orff, « Oh Fortuna ». Alors Virginie, maintenant on va rentrer absolument sur l'événement que toi et Vanessa ont déjà mis en place pour la deuxième année consécutive, sachant que la première année a été un réel succès. Alors déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'aperçu de l'itinéraire ?
Alors donc, nous démarrons le 28 au matin au château de Taurine. Les cavaliers seront arrivés, les randonneurs, puisque nous avons également des marcheurs, seront arrivés la veille. Et du château de Taurine, nous allons procéder jour par jour, Sauveterre, Belcastel, Marcillac, Estaing, Bozoul, pour terminer à Rodez.
Alors justement, l'arrivée à Rodez, c'est quand même assez extraordinaire, assez spectaculaire, et c'est une sorte de retour aux sources, puisque les 100 km de Rodez sont partis, ont été créés au Haras. Alcantara de Rodez. Et Dieu sait que ces 100 kilomètres ont fait des petits, si je puis dire, puisque ça a été un peu l'idée même de la randonnée à cheval. Et comme tu le dis très bien, une randonnée en boucle, comme le chien qui se mord la queue, mais une pérégrination.
Oui, c'est ça qui caractérise cette randonnée, dès la première route du sel en 1984, c'est que c'est une randonnée itinérante. On part d'un point A pour aller à un point B, mais on ne revient jamais sur nos pas. Et je ne pense pas qu'il y en ait énormément en France, en tout cas aujourd'hui, qui offrent cette diversité, cette possibilité de changer, de bivouaquer tous les soirs dans un lieu différent.
Ce qui est bien l'esprit et qui est dans le titre de l'événement, la route randonnée découverte. Je crois que tout est dans découverte. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus?
Oui, depuis 2 ans, c'est la découverte de l'Aveyron en particulier qui nous tient à cœur et qui ne se limite pas à la beauté des paysages, de cette nature si belle qui caractérise notre département, mais c'est pénétrer dans la culture aveyronnaise, si on peut dire, dans la découverte du patrimoine historique, culturel et culinaire, parce qu'il n'y a rien de mieux pour découvrir un endroit, une région, que de découvrir sa gastronomie. D'où l'accent que nous mettons sur la gastronomie, et tous nos randonneurs vont pouvoir goûter les spécialités, depuis le tripot au chou farci, confit de canard.
Voilà, donc peut-être pourrons-nous le conseiller aux cavaliers. Alors, je parle pas des vététistes, de toute façon, ce qu'ils ont mangé la veille, le lendemain, ils le laissent sur la route. Mais peut-être aux cavaliers. Encore que, tu ne me contrediras pas, Virginie, on a l'impression, enfin, les gens qui ne connaissent pas l'équitation ont l'impression que c'est un sport de paresseux. Ils pensent qu'en s'asseyant sur un cheval, c'est le cheval qui fait tout le boulot et le cavalier qui fait pas. C'est pas tout à fait ça, quand même, hein.
Ah non, je veux dire, c'est un sport à part entière et qui utilise d'ailleurs des muscles qu'on n'utilise pas quand on marche. Et tous les cavaliers qui n'ont pas monté à cheval depuis un certain temps savent combien c'est douloureux lorsqu'on se remet à monter à cheval.
Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que sur les randonnées, en règle générale, le cavalier ou la cavalière sont tout feu tout flamme au départ et puis ça s'atténue petit à petit, alors que le cheval qui est tout plan au départ, plus la randonnée se poursuit, plus il prend la forme, plus il devient énergique, plus il marche d'un bon pas, etc. C'est exactement l'inverse.
Ah, le cheval est très endurant et une fois qu'il s'est mis dans un rythme, il va en s'améliorant.
Oui, donc c'est pour ça qu'aussi il est très très important que les premières étapes soient ce que vous avez très bien fait, des étapes assez mesurées pour permettre effectivement au couple cavalière-cavalier-cheval et l'inverse, donc de se mettre réciproquement en forme.
Voilà. Oui, et puis il ne faut pas penser quand même aussi dans une randonnée, on met pied à terre, hein.
Absolument.
Il faut savoir aussi comprendre son cheval.
Donc aussi conseiller que les jolies bottes de club, c'est pas la meilleure chose, mais les gros croquenots, c'est souvent assez meilleur. Puis évidemment, avant de partir, faire vérifier par un maréchal la ferrure du cheval, ça c'est très 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 important.
Tout à fait.
Voilà. Alors donc l'arrivée à Rodez a lieu le 2 août, voilà, et ça c'est quand même un événement extrêmement important, bien sûr, et les dernières étapes. Est-ce que, je sais pas, je suis cavalier indépendant, j'ai mon cheval, je sais que ça passe. Est-ce que je peux me joindre à cette randonnée?
Alors c'est justement ce qui caractérise cette dernière journée qui nous amène à Rodez, c'est que nous donnons rendez-vous à tous les cavaliers, indépendants ou qu'ils soient en club, afin qu'ils nous rejoignent au centre équestre Lilliput, qui se trouve à Honnay-le-Château.
Honnay-le-Château, Lilliput, oui.
Voilà, et vers 17h, et ensuite nous partirons tous ensemble en cortège jusqu'à Rodez, où nous arriverons, nous remonterons la rue Béteille, nous passerons Place d'Armes, nous descendrons l'avenue Victor Hugo en contresens.
Avec l'autorisation de la mairie, qu'on remercie
et
beaucoup.
Qui nous a aidé à préparer tout cela. Et nous arriverons par la rue Vieux-Sens pour remonter dans les haras par le bas, ce qui permettra aux cavaliers et aux randonneurs de découvrir ce lieu magique qui est donc notre étape finale de cette belle randonnée, du moins nous l'espérons.
Voilà. Et alors, peut-être on peut dire aux ruténoises et aux ruténois qui nous écoutent et qui ont envie de venir, surtout ne restez pas forcément sur le bord du trottoir à voir passer la pérégrination. Au contraire, venez vous joindre aux participants, parler avec eux, descendre à avec jusqu'au haras et puis peut-être manger, assister au spectacle. Enfin, c'est important. Je crois que vous avez voulu, Virginie, toi et Vanessa, effectivement créer quelque chose de très convivial. C'est pas un événement d'un côté et un public qui regarde de l'autre. Vous avez voulu, au fond, un petit peu mêler tout ça.
Oui, c'est un partage. C'est-à-dire, nous, on apporte notre spectacle, entre guillemets, en passant, mais on s'adresse à tout le monde, aux villageois des villages que nous traversons, à toute la population qui est ici en visite, en touriste. Venez avec nous, mêlez-vous à nous, partageons ce moment de plaisir qui est la rencontre de gens très différents.
Merci Virginie. Alors on va aborder donc la petite rubrique qui s'appelle Les chevaux de papier. Et donc cette semaine, le messager du cheval vous propose 3 livres. Alors le premier, évidemment, et ça c'est de Virginie Bauer. Elle a écrit L'éducation du cheval dans la joie. Alors là c'est 110 pages captivantes qui nous retracent le parcours équestre de Jean-Yves Bonnet, cet immense cavalier qui a su concilier la doctrine de l'équitation classique telle qu'elle est pratiquée à Saumur, donc très très classique, et avec ce zeste de folie qui a fait de cet homme assez inclassable, je dois dire, l'une des icônes de ces 50 dernières années. Je crois que tu ne me contrediras pas. Et c'est à découvrir chez Actes Sud. Les cavaliers afghans, comment Louis Meunier, cavalier alpiniste français, réussit à se faire intégrer dans une équipe de Bouskachi à l'occasion d'un séjour de plusieurs années qu'il a fait en Afghanistan. C'est 350 pages, mais passionnante, et c'est aux éditions Kero, K-E-R-O. Et évidemment, Une civilisation du cheval de Carole Ferré, qui est ethnologue, spécialiste des cultures turco-mongoles de Sibérie et d'Asie centrale, où l'on découvre que si le cheval peut être monté, chanté, divinisé, ben, il peut également être très, pour les juments, c'est pas trop grave, voire manger. Gloups. Et c'est aux éditions Belin. Alors, le dicton de la semaine, et Virginie, tu nous diras ce que tu en penses, il est de Jean-Claude Adelin, donc l'acteur de cinéma et talentueux cavalier actuellement en résidence au Haras National de Rodez. Et Jean-Claude dit, en éthologie, tu apprends à prendre le cheval là où il est et non pas où tu veux qu'il soit. Et c'est un très bel article qui est consacré tant à l'artiste qu'à l'homme de cheval dans le numéro 12 de la revue Cheval Pratique. Alors que penses-tu de cette phrase de Jean-Claude Adelin ?
Ah, il faut toujours aller vers les chevaux. C'est trop de gens prennent, mais pour comprendre un cheval, il faut aller vers lui, l'observer, passer du temps avec lui. Il a tout à fait raison.
D'accord, tu valides cette phrase de Jean-Claude Adelin qui, je le répète, travaille essentiellement ses chevaux en liberté. Il les monte évidemment, mais il les travaille en liberté. Mais en liberté sans rien, même pas un licol autour du cou. Alors nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Et ce cheval est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis, attention, à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouer 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toi Virginie.
Merci Michel.
Et merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux, hein, Virginie.
Oh oui.
Ciao, ciao.
Chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey.